Aujourd'hui, nous recevons Catherine Chabot, eurodéputée, membre à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée et membre suppléante de la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire, ainsi qu'ancienne navigatrice. Catherine Chabot, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Récemment, vous avez été à l'origine d'un projet lié au programme Plancton Planète. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le programme Plancton Planète ?
Est-ce que le plancton, ça vous dit quelque chose ? C'est en fait des micro-organismes, c'est l'infiniment petit dans l'océan. Et c'est soit du plancton végétal, soit des micro-organismes végétaux, soit animaux. Et en fait, c'est vraiment la base de la vie en mer. Et en fait, on connaît très très peu ces micro-organismes, qui sont pourtant absolument essentiels, à la fois pour l'équilibre du climat, notamment pour ce qui concerne le phytoplancton, mais aussi pour l'activité de l'océan en général. Et en fait, ce micro-plancton a été l'objet d'une des missions de, vous savez, la Fondation Tara et du bateau Tara dans les années, il y a déjà maintenant une dizaine d'années. C'était la mission Océan, Tara Océan. Et à travers le monde, les scientifiques qui ont embarqué ont prélevé du plancton, étudié du plancton absolument partout. Et là, il y a des scientifiques de cette mission à l'époque, Colomban de Vargas, il est chercheur, il est biologiste à la station de Roscoff du CNRS, et il s'est dit, mais en fait on a besoin d'imaginer, d'explorer, de mieux connaître ce plancton, il nous manque des bateaux. En fait, il nous manque des bateaux parce qu'il y a très peu de bateaux océanographiques. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir une espèce d'océanographie qu'il appelle frugale, c'est-à-dire qu'il crée des petits instruments à la fois de collecte. Vous avez des filets pour collecter le plancton, des moyens aussi pour filtrer l'eau, pour récupérer l'ADN du plancton, et puis voilà, des microscopes, etc. Donc, il a développé ça il y a quelques années. Et l'initiative que j'ai lancée avec le bateau de Jean-Louis Etienne, Persévérance, c'était d'embarquer justement un scientifique et du matériel sur Persévérance, qui est actuellement en Antarctique.
Vous l'avez évoqué, vous êtes une des personnes à l'origine de l'embarquement du programme Plancton Planète à bord du Persévérance, qui est donc la goélette d'exploration polaire et du ravitaillement du futur Polarpod. Pourquoi et comment est-ce que vous vous êtes investi dans ce projet et est-ce que c'était important pour vous en tant qu'eurodéputée de prendre place dans ce projet ?
Oui, c'était une bonne question. Comment moi je suis arrivée là ? Alors déjà, je connais Jean-Louis Etienne depuis pas mal d'années. J'ai suivi les précédentes expéditions qu'il a menées et notamment avec ce qui était Antarctica avant de s'appeler Tara, etc. Et puis c'était vraiment notre grand explorateur. J'ai beaucoup d'admiration et il y a plus d'une dizaine d'années, Jean-Louis a lancé ce projet de Polarpod, qui est un projet d'un navire un peu incroyable qui flotte à l'horizontale quand on le déplace, mais il est prévu donc qu'il se relève, qu'il se redresse et qu'il dérive à la verticale autour de l'Antarctique en suivant le grand courant circumpolaire, etc. Et l'idée de Jean-Louis, c'est de faire de la collecte de données à la fois physico-chimique et biologique aussi, mais vraiment un peu, pas uniquement en surface, un peu en sous-marin, et au fil de l'eau. Et il se trouve que pour ravitailler ce futur Polarpod, il a fait construire Persévérance, qui est une espèce de cargo à voile. Il m'a fait l'amitié de me proposer d'être la marraine de ce bateau. Et étant la marraine, je me suis dit, mais il se trouve qu'il a des cabines à bord, que pour arriver à financer, parce que le problème de la recherche, c'est les moyens financiers. Je peux vous dire que c'est pas un petit sujet. J'en parlais récemment avec le président du CNRS, notre grand centre de recherche français. Et on a un vrai problème pour financer la recherche océanographique en particulier. Et donc, je me suis dit, il y a des cabines à bord, etc. Bon, moi, je me suis dit, ça serait génial que j'embarque, machin. Et puis, j'ai pas le temps. L'eurodéputé que j'ai n'a juste pas le temps en ce moment d'aller faire un tour, d'aller suivre les expéditions. Et du coup, je me suis dit, mais il faut faire embarquer ces cabines, elles peuvent pas circuler toutes seules, il faut vraiment donner l'opportunité, et je sais que c'était l'ambition de Jean-Louis Etienne, d'embarquer des scientifiques. Il y a déjà un scientifique, Hervé Le Goff, à bord, qui dirige déjà les opérations. Il y avait déjà du matériel, mais plutôt tourné vers de l'observation physico-chimique, etc., pas forcément biologique. Et Hervé Le Goff connaissait très bien le programme Plancton Planète, etc. Donc quand j'ai suggéré, voilà, qu'embarque un scientifique avec une journaliste, de manière à rapporter un petit peu ce qui se passait à bord, Jean-Louis a trouvé ça super. Voilà, j'ai contacté Colomban de Vargas en lui disant « Est-ce que ça t'intéresse ? Pourquoi pas embarquer Plancton Planète ?» Ça s'est fait comme ça, et c'est génial. Ils sont partis Donc, au mois de janvier, là, ça a été relativement court. Tout le monde, voilà, c'était très concentré, mais très intéressant. Et je peux déjà vous partager déjà ce que les scientifiques nous ont raconté.
Donc, justement, a-t-on déjà obtenu des réponses à certaines des questions que l'on se posait ?
Alors déjà, il y a une chose, c'est comment on fait pour collecter du plancton dans un espace qui est au bord des glaciers qui fondent. En fait, donc Noan Lebesco qui a embarqué avec Dorothée Adam, la journaliste, Noan a commencé à faire un prélèvement, vous savez, en face d'Ushuaia, sur la pointe de l'Amérique latine. Là, vous avez l'Argentine qui va jusqu'à Ushuaia, puis au sud, vous avez la Terre de Feu, et puis vous avez un port qui s'appelle Puerto Williams, d'où est parti le bateau. Donc à Puerto Williams, il jette, alors qu'ils étaient encore amarrés, son filet à plancton, et il me dit, une biodiversité formidable, elle arrive à identifier tout ça. Et puis, il traverse ce qu'on appelle le Drake, c'est donc le passage entre la pointe de l'Amérique latine et la pointe de la péninsule antarctique, qui est juste en face du Cap Horn. Hein. Vous savez, l'Antarctique, à cet endroit-là, fait une espèce de virgule où le bateau allait. Il traverse, etc. Les conditions météo un petit peu difficiles, donc pas beaucoup de prélèvements, mais quand même un peu de prélèvements pendant la traversée. Et encore une fois, ils observent des espèces, etc. Et puis, ils arrivent là-bas. Et là, les premiers jetés de filets à plancton, ça donne rien du tout. C'est le vide sidéral, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait s'écarter des glaciers, parce que les glaciers fondent et que voilà, il y a pas de plancton dans la partie qui fond. Mais alors, c'est très intéressant parce qu'ils ont rencontré, ils ont passé donc 15 jours. Et vous savez que vous avez des stations scientifiques en Antarctique, et notamment vous avez une station ukrainienne avec un biologiste qui précisément travaillait sur l'observation du plancton, qui était très intéressé par le matériel frugal embarqué sur Perseverance. Il y a eu beaucoup d'échanges. Et à ce moment-là, donc, en termes, pour répondre à votre question, il faudrait leur demander s'ils ont découvert. Alors, il y a certains éléments, ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Ils n'avaient jamais identifié. Mais après, ils reconnaissent des diatomées, des copépodes, etc. Je vous donne pas le détail, mais tout ça, ça fait partie de ce monde des micro-organismes. Et ils ont échangé, ils ont probablement, l'idée serait de pouvoir équiper cette station avec le même matériel. Et puis en retournant à Puerto Williams, il se trouve que dans ce petit village de pêcheurs que moi j'ai connu il y a 10 ans, parce que j'avais fait une navigation là-bas, vraiment il n'y avait pas grand monde à y vivre, il y a une université aujourd'hui. Ils ont rencontré les scientifiques qui étaient là, et l'idée, c'est aussi de pouvoir équiper de manière un peu pérenne et d'embarquer éventuellement des jeunes scientifiques, des Chiliens qui viennent là, etc., à bord. Et voilà, parce que Perseverance va revenir régulièrement dans cet endroit. Non, c'était une belle réussite. Et j'attends de savoir les conclusions aussi pour la suite.
Donc vous avez un petit peu évoqué le financement. Concrètement, comment est-ce que ce projet-là, il a été financé ? Est-ce qu'il y a des financements européens qui sont entrés en jeu ?
Alors concrètement, moi j'ai repéré que dans mon enveloppe de députée européenne, l'enveloppe avec laquelle sont rémunérés mes assistants, les stagiaires, etc., le député européen peut financer une mission scientifique. J'ai vu ça et je me suis dit, donc bien évidemment, le budget, c'était pour l'embarquement du bateau, les frais d'avion, la participation aux frais du bord, etc. Et puis pour financer la réalisation de documents pédagogiques qui seront réalisés donc par les réalisatrices. Donc moi, j'ai mis un peu de sous de cette enveloppe-là, en toute transparence, hein, je vous le dis, un peu de sous aussi de mes frais généraux, considérant que c'était une mission aussi de la députée européenne. Et j'ai suggéré à la fondation du CNRS, qui est toute nouvelle, de participer. Et donc, voilà, à nous deux, on a bouclé un budget.
Vous évoquiez donc comment a été financé le projet du plancton planète à bord du bateau Perseverance. Finalement, cet investissement, qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Est-ce que vous cherchiez à faire passer un message avec ce projet ?
J'essaie de promouvoir un pacte bleu dans notre pacte vert. L'Europe est engagée dans cette décennie des sciences de l'océan pour le développement durable. Mais des moyens. L'Europe, au travers de la mission Starfish, qui est l'un des 5 programmes thématiques de la mission Horizon Europe. Dans cette mission-là, c'est Starfish, l'étoile de mer, il y a 5 axes. Il y a un axe qui consiste à mobiliser, c'est ce qu'on appelle l'ocean literacy en anglais, l'alphabétisation de l'océan, pour le traduire en français, qui consiste à mobiliser tous les citoyens européens pour qu'ils participent à la connaissance. Et là, vraiment, pour moi, je rentre complètement dans cette participation. Donc, on est en train de travailler sur un communiqué final là, qui est pas encore diffusé, mais qui va arriver. À partir de toute la documentation, on produit de la donnée et qui va être à disposition des médias. Et pour moi, c'est une mission qui va au-delà des espérances que j'avais. Je savais pas très bien dans quoi je m'engageais. Vous avez un objectif précis. Promouvoir, soutenir Plancton Planète, les sciences participatives, avec ma casquette d'eurodéputée, parce que la science, parce que mieux connaître l'océan, c'est un de mes objectifs. Et puis finalement, il y a un véritable intérêt, parce que cet infiniment petit est assez mystérieux. Quand on regarde les images sous le microscope, en plus avec les photos, on voit les glaciers derrière, c'est juste magique d'imaginer qu'on fait de la science comme ça, avec facilité. Un dernier mot, c'est que moi j'ai testé Plancton Planète il y a plusieurs années au Groenland avec la navigatrice Isabelle Autissier qui m'avait fait l'amitié de m'embarquer sur son bateau et on avait embarqué Plancton Planète. C'est comme ça que je le connais, je connaissais Colomban de la mission sur Tara. Et j'ai trouvé ça dingue de pouvoir collecter du plancton. On avait un appareil, donc un filet. Et puis, à l'époque, il a un peu amélioré le système. Mais on arrivait à récupérer de l'ADN de plancton, rien qu'en filtrant avec des tampons comme des cotons très, 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 très fins. Et puis, pour arriver à évacuer l'eau, on mettait ça dans la poêle. sur une feuille d'aluminium, on mettait le petit coton avec l'ADN du plancton, on mettait ça dans un sac plastique et puis on envoyait ça, on a rapporté ça aux scientifiques, etc. Et je trouvais ça magique, j'avais trouvé ça très ludique et vraiment très, très pertinent.
Donc est-ce que l'Europe aujourd'hui gagnerait à s'investir, ou en tout cas à essayer d'investir plus fortement dans la recherche, notamment en ce qui concerne la défense des océans ?
Oui, absolument. L'Europe gagnerait. Alors, elle le fait déjà, mais elle pourrait encore aller plus loin, c'est évident. À la fois en renforçant... Moi, je crois beaucoup... En France, on a ce qu'on appelle la flotte océanographique française, la FOF. Il m'arrive, depuis que je suis députée européenne, je les connaissais avant, mais de rencontrer d'autres scientifiques européens qui font... Voilà. Et on a quand même beaucoup de moyens à l'échelle européenne. On a beaucoup de stations biologiques, etc. Et les scientifiques collaborent déjà beaucoup. Mais ce que l'on gagnerait encore plus, c'est si l'Europe avait une vraie stratégie avec la mer, en se disant « ça, c'est un domaine sur lequel il faut que j'investisse ». Parce que l'Europe, quand vous additionnez les zones économiques exclusives des 27, alors bien sûr, il y a des États membres qui n'ont pas beaucoup de côtes, et puis d'autres qui n'en ont pas du tout, mais globalement, vous avez le premier espace maritime au monde. Et si vous investissez sur mieux connaître, alors mieux connaître, c'est investir non seulement dans l'océanographie embarquée, mais aussi le spatial. On a un acteur au travers qui exploite les données de Copernicus, qui est Mercator Océan, et Mercator Océan a créé Mercator Océan International, est en train de créer un jumeau numérique de l'océan. C'est quoi ? C'est on va essayer de modéliser toute cette donnée qu'on collecte sur l'océan. Mais pour arriver à avoir un jumeau numérique pertinent, il faut lui injecter de la donnée. Satellitaire, certes, mais aussi in situ, etc. Donc il faut vraiment arriver à mobiliser. Donc l'Europe, j'ai la semaine prochaine une réunion justement avec les membres de la mission Starfish pour faire un point sur les avancées. Et voilà, cette partie de renforcer la connaissance, soutenir les sciences participatives, et puis coordonner, à mon avis, je parlais de la flotte océanographique française, moi je rêve d'avoir une flotte océanographique européenne. On a besoin de plus de bateaux et on a besoin aussi de servir, d'utiliser, j'en reviens à ce que je disais au départ, tous ces navires d'opportunité, on appelle ça comme ça, que sont les navires de pêche, les navires de commerce, les navires de guerre, etc. Et en général, les marins s'y prêtent volontiers. Et les marins même de la course au large, puisque pour tout vous dire, moi j'ai été d'ailleurs, aujourd'hui, ils commencent à embarquer, quelques-uns ont essayé d'embarquer justement directement quelques systèmes de collecte du plancton, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait que le bateau aille vraiment lentement, puis ça, c'est du job. Mais l'immersion de capteurs océanographiques, moi j'ai fait ça déjà dans les années 90. À l'époque, c'était avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Aujourd'hui, ça se fait à l'échelle, il y a un programme piloté par l'UNESCO et la Commission océanographique internationale, et les bateaux du Vendée Globe ont un partenariat avec cette commission. Et le Vendée Globe va partir là à la fin de l'année, et ils vont participer, là encore, avec des capteurs océanographiques, l'immersion de nouveaux capteurs. Ils vont participer à la connaissance, etc. Et je vraiment, et en plus, il y a un autre sujet aussi en matière de science. On a besoin de savoir où sont les cétacés pour éviter les collisions. Ça, c'est un autre sujet dont on pourrait parler, mais voilà, il nous faut peut-être du temps.
Oui. Les élections européennes arrivent prochainement. C'est quoi les enjeux aujourd'hui de ces élections pour la protection de la mer et de l'océan ?
Très clairement, pour moi, l'enjeu, c'est d'arriver à faire intégrer ce pacte bleu, ce pacte océan. J'y travaille depuis plusieurs années maintenant. Il est intégré au programme Renaissance, enfin de la délégation de la majorité présidentielle. J'en suis vraiment très fière. La mer est déjà intégrée dans les textes européens. Elle est déjà, on a une politique maritime dite intégrée, c'est-à-dire qui est censée aborder les sujets de manière transversale. On a une politique commune des pêches. Alors on a tendance à parler de la mer à l'échelle européenne, uniquement pour parler de la pêche. Or, il y a plein d'autres sujets. On vient d'évoquer pendant quelques minutes le sujet de la science. Il y a tout le sujet du développement de l'économie maritime. Et tout le sujet, puisque pendant 5 ans, notre objectif, ça a été de construire le cadre législatif du Green Deal, de cette transition, pour répondre aux enjeux, parce que vous posez la question, quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est climat, c'est vraiment cet enjeu climatique, il est essentiel. Alors, on a d'autres enjeux aujourd'hui en Europe, hein, notamment de défense, etc. Mais si on ne règle pas cet enjeu majeur climatique de frein de la perte de la biodiversité, etc., l'humanité vraiment va devant et commence à connaître déjà des catastrophes.
Quand vous parlez de pacte bleu, ça veut dire quoi exactement ?
Ce pacte bleu, l'idée, c'est d'avoir une vision beaucoup plus stratégique, c'est-à-dire de dire, de reconnaître, c'était déjà mon slogan dans ma campagne de 2019, l'Europe renaîtra aussi de la mer, c'est-à-dire d'en faire un sujet d'appropriation et un sujet stratégique. Il y a plein de sujets en particulier que je vais en évoquer au moins deux, peut-être trois. Premier sujet, intégrer ce qu'on appelle les écosystèmes du carbone bleu dans la législation climatique, c'est-à-dire on a des forêts terrestres, mais on a des forêts marines. Donc il faut arriver à les cartographier, à mesurer leur capacité d'absorption du carbone, etc., etc. Deuxième sujet, c'est la transition du transport maritime. Et ça, c'est un de mes gros sujets, une grosse victoire de ce mandat, c'est d'avoir déjà le carbone bleu, on a réussi à le faire rentrer dans un texte législatif. Eh bien, dans la transition du transport maritime, il y a tout le sujet de la transition de la fabrication de carburants alternatifs, pour carburants alternatifs au fuel, etc. C'est l'hydrogène, c'est l'ammoniaque, c'est les e-fuels, etc. Mais c'est aussi remettre des voiles sur les bateaux, développer un complément de propulsion, pas uniquement des carburants, mais avec beaucoup de bon sens, remettre des voiles. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur ce sujet, d'abord on a réussi à le faire rentrer aussi dans la législation, il faut encore améliorer pour faciliter son insertion, etc. Mais c'est dans la législation. Mais je me suis rendu compte que c'était une opportunité même pour relancer la construction navale européenne. Donc il y a aussi un enjeu non seulement climatique, mais aussi économique. Et ça va faire l'objet d'un événement qu'on organise prochainement, d'ici la fin du mandat. Mais voilà, c'est donc quels sont les enjeux ? C'est arriver à faire comprendre que l'océan, ça n'est pas que le sujet des Français, des Portugais qui ont des grands espaces maritimes, mais ça concerne aussi les Hongrois, les Tchèques ou les Polonais. Parce que la moitié de l'oxygène que vous respirez, c'est l'océan, parce que les pollutions qui vont à la mer, elles viennent pas uniquement des espaces littoraux, ça vient aussi de l'intérieur des terres, etc., etc., qu'on a tous notre responsabilité dans ce sujet et que l'océan est seulement notre bien commun à tous.
Merci beaucoup, Catherine Chabot.
Merci à vous.
D'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.